Once d'or et métaux précieux en bourse. Perspective de tendance pour l'année 2025. Le cours de l'or a-t-il terminé son cycle haussier à la fin de l'année 2024? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Bienvenue, chers amis, nous allons parler du cours de l'or. Le cours de l'or qui, depuis la fin du mois d'octobre 2024, ne fait plus de nouveau plus haut, évolue dans un trading range souffrant en particulier alors de la remontée du dollar, la remontée des taux d'intérêt, mais aussi d'un arbitrage favorable au cours du Bitcoin. Il y a cette relation d'opposition entre les ETF Gold très anciens et les nouveaux ETF Bitcoin Spot, qui d'ailleurs ont un AUM qui représente maintenant presque 50% de ceux de l'or en l'espace d'un an. Bon, bref, l'or a-t-il, fin octobre dernier, à 2790$, trouver son point haut? Où reste-t-il encore, à la fois sur le plan technique et sur le plan des fondamentaux, de quoi faire une dernière jambe de hausse pour aller chercher les fameux 3000$, ce chiffre rond? Chers amis, je vous propose, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, une réponse argumentée, à la fois sous l'angle d'analyse technique, et là vous allez voir que c'est hyper intéressant, et aussi bien sûr, les monteurs fondamentaux de cette tendance haussière. Sont-ils éteints? Vont-ils se rallumer? Sont-ils encore allumés? Vont-ils agir ensemble ou pas? Se contredisent-ils? Bon, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Et bien sûr, la relation aussi aux autres classes d'actifs. Première partie, simplement. Vous me connaissez, je vous propose un décompte en vague d'Elliott et une analyse technique précise du cours de l'or depuis maintenant plusieurs mois, depuis la cassure de l'ancien record historique, et je vous avais proposé une cible autour des 2700$ qui correspondait à une extension théorique, extension de Fibonacci, de cette grande vague 5. Car oui, la question est, la grande vague 5 a-t-elle été terminée fin octobre dernier? Ou sommes-nous simplement en train de construire la sous-vague 4 de la grande 5? Et donc il resterait une 5 de 5 pour aller à 3000-3002$, peut-être, l'once d'or cette année. Je vais répondre à cette question précisément en première partie, sous l'angle donc de l'analyse technique. Chartisme, momentum, sentiment, Ishimoku, vague d'Elliott, échelle arithmétique, échelle logarithmique, tout y passe, on répond à la question. Mais pour envisager que l'or n'ait pas terminé son cycle haussier l'année dernière, il faut pour ça que des fondamentaux l'autorisent. Et donc je passe en revue tous les moteurs d'influence de la demande physique d'or, de la demande financière, financière aux financières d'or, les ETF, les contrats futurs, les corrélations, la demande en joaillerie, la Chine, l'Inde, les banques centrales, beaucoup de choses agissent. Et pour que l'or aille plus haut, il va falloir que tout ça ne se contredise pas. Il va falloir que tous ces fondamentaux, ces facteurs fondamentaux avancent ensemble. Il y a aussi bien sûr le lien aux autres classes d'actifs, les corrélations, et même le rapport au cours du Bitcoin aussi, n'oublions pas. Ça, ce sera donc la partie fondamentale. Et puis, naturellement, les autres métaux précieux. Y a-t-il de l'upside technique encore à aller chercher sur le cours de l'argent métal, le silver? Y a-t-il de l'upside à aller chercher sur le platine, sur le palladium? Ce sera la troisième partie de cette nouvelle édition du Fast and Forex. Gold, perspective de tendance pour 2025, c'est parti. Gold, perspective de tendance pour l'année 2025, chers amis, c'est parti. Selon le plan annoncé à l'instant, que le rideau s'ouvre, je déclare la session ouverte, installez-vous, bienvenue au théâtre Fast and Forex. Le programme, chers amis, je viens de vous le donner, l'or qui a gagné 26% en 2024, qui est en pause depuis la victoire de Donald Trump, qui paye un dollar trop fort, des taux d'intérêt trop élevés et un arbitrage favorable au cours du Bitcoin. Trois parties. Nous allons donc logiquement commencer par la première partie. Sur le plan technique, peut-on dire que le cycle haussier du cours de l'or s'est terminé en 2024 avec ce point haut à 2790$? Cette vague que je numérote 5 dans le cadre d'un décompte Elliottiste, d'un point de vue technique, le cycle est-il terminé? Ou reste-t-il une dernière jambe de hausse qui pourrait nous mener en direction justement des 3000$, c'est-à-dire en gros cette vague 5 est-elle encore en développement? Sommes-nous simplement dans la sous-vague 4 de la grande 5? Alors, d'abord, on va commencer par un point performance. Effectivement, le cours de l'or s'est apprécié de 26% en 2024. C'est une performance qu'on peut juger tout à fait appréciable. Du fait de quoi? De la force du dollar, de la force des taux d'intérêt, et aussi, bien sûr, depuis la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre dernier, 2024, un arbitrage largement favorable au cours du Bitcoin. Je vous montre ici, je suis sur TradingView, donc je compare les actifs, je suis ici basé sur une échelle en pourcentage, et là, je clique sur 1 year pour avoir la performance depuis une année. Effectivement, le cours de l'or est quand même pas trop mal placé, il s'apprécie de 34% depuis une année. Il est ici, vous avez une sélection pour représenter chaque classe d'actifs, donc un actif majeur pour chaque classe d'actifs, le marché actions, le marché du crédit, les obligations, le taux d'intérêt, les indices boursiers, les crypto-monnaies, les matières premières. Et donc, effectivement, l'or n'est pas trop mal placé, mais voilà qu'il est écrasé par la performance du cours du Bitcoin, se situant à peu près à la performance du cours d'Ethereum. Mais 35% pour l'or depuis un an, c'est appréciable, sachant que sur la même période, depuis un an, le cours du dollar américain au sein, le classement sur le marché d'échange, le classement des devises majeures du Forex, le dollar américain est la seule devise majeure du Forex en hausse depuis un an. Et parmi les facteurs d'influence du cours de l'or, nous connaissons la corrélation inverse qui s'exprime entre le cours de l'or et la tendance de fond du dollar américain face à un panier de devises, sans oublier les taux obligataires qui sont remontés tout en haut malgré le pivot des banques centrales, parce que la désinflation est plus lente que prévu, parce que le marché du travail américain est plus résilient que prévu. Ça, j'arrive dans la seconde partie sur le plan des fondamentaux. Mais donc, tout d'abord, cette performance de l'or est quand même appréciable en 2024. Et donc, l'or, eh bien, il a rejoint l'année dernière les 2790$. On va prendre un peu de recul à l'aide ici d'un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles, qui rappelle que l'or est un marché extrêmement cyclique. Je suis ici en échelle arithmétique. Hein. L'or est un marché extrêmement cyclique. Alors, c'est très différent des cycles Bitcoin, mais on voit très bien les longues phases d'appréciation, phase de range, phase d'appréciation, phase de range, phase d'appréciation. Et tout le monde se pose la question de savoir, va-t-on rentrer bientôt dans cette phase ici de range ou de retracement, alors que nous avons une phase d'appréciation ici importante. Je vous remonte mon décompte éliotiste, donc de fond, dont la partie commence, dont la vague 1 commence ici à la fin de cette phase de bear market, pour reprendre un peu le jargon du marché des crypto-monnaies. Ça fait donc depuis 10 ans que nous sommes dans cette phase de hausse. D'ailleurs, ici, la phase de hausse aussi avait duré à peu près 10 ans, un peu plus, 11-12 ans. Et notez qu'en atteignant les 2700$, cette cible technique que je vous ai proposée depuis un certain nombre de mois, lorsque le cours de l'or a cassé au début d'année 2024, a réalisé un breakout de son ancien record historique, c'était ici ma cible. Depuis fin octobre, le marché y est stabilisé. Mais est-ce pour autant réellement? Est-ce réellement la fin de la vague 5? Est-ce réellement la fin de la vague 5? Sommes-nous vraiment en haut d'un gros cycle haussier structurel de long terme? Sommes-nous arrivés au bout de cette vague 5 idiotiste? Ou sommes-nous simplement dans la sous-vague 4 de la 5? Car je vous rappelle qu'une vague 5 impulsive, ce sont des composants 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça c'est la question que nous nous posons. Et effectivement, il y a des choses intéressantes à voir sur ce sujet. Alors déjà, je vous rappelle que la cible des 3000$ appelle les prix, c'est le chiffre rond, très bien. En atteignant les 2700$, notez déjà que ce cycle haussier de 10 ans a eu la même amplitude que ce cycle ici. J'ai mis ici une extension de FIBO, pour avoir donc cette vague-là reportée au point bas ici, ça donnait les 2700$, donc on a ici une amplitude proche. Et d'autre part, effectivement, en atteignant donc les 2700$, eh bien, j'ai ici une extension de vague 5. Alors, il y a plusieurs façons de calculer les objectifs théoriques de vague 5. Moi, je vous propose celle qui est la plus usuelle. Alors, 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3, reporté donc au bas de la vague 4. Ce qui donne, alors, parfois, on peut aller jusqu'à une fois le bas de la 1 au top de la 3, reporté au bas de la vague 4. Et effectivement, je suis ici sur une échelle normale. Et donc, en échelle arithmétique, en échelle normale, une fois l'extension, une fois ce mouvement en bas de la 4 est ici, plus une fois ce mouvement-là reporté au bottom ici de 2015, ça donnait donc cette zone. Mais voilà, le marché se met simplement en pause et pour l'instant, eh bien, ne donne pas de signal de renversement. Alors c'est justement ça qui va être très important à surveiller. Vous voyez tout de suite, moi, l'idée, c'est qu'au fond, je pense que cette grande 5 n'est pas terminée et que nous serions, donc je la décompose, la grande 5, que dans la sous-vague 4 de la grande 5, cette phase de transition latérale entre les 2500$ et les 2790$ pour plus tard dans l'année reprendre la marche en direction des 3000$. Alors, ce n'est pas invalidé ce point de vue tant qu'on ne casse pas de support. Mais effectivement, eh bien, peut-on considérer que cette vague 5 est-elle terminée? Alors, en échelle arithmétique, effectivement, il va être difficile d'aller réellement plus haut avec la vague 5. Par contre, en échelle logarithmique, les choses sont complètement différentes. Alors, je reviens sur le graphique. Nous rebasculons ici sur les bougies japonaises en données mensuelles. Sur une échelle arithmétique, ça va être effectivement compliqué. Je vais basculer sur une échelle logarithmique. Et là, eh bien, je retrouve donc mon extension de vague 5. Donc, je reporte l'amplitude du bas de la vague 1 au top de la 3 au bas de la 4. Le 0,618 est ici, mais le 1 est ici. Et dans les vraiment les gros cycles haussiers, si on pousse vraiment le cycle très très haut, on peut avoir au max pour une vague 5, une fois l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, ce qui donne en fait cet intervalle en log entre 2 500 $ et 3 200 $. Donc sur la base, oui, sur la base d'une échelle logarithmique, il serait possible d'envisager que le marché pousse jusqu'aux 3 000, 3 200 $. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et au stade actuel, donc je décompose cette vague 5, une sous-vague 1, une sous-vague 2, une sous-vague 3, et nous serions en fait ici en train de construire la sous-vague 4. Alors la sous-vague 4 qui va peut-être prendre un certain nombre de temps, ça peut être un flat, ça peut être un regular flat, A, B, C. On va peut-être faire une sorte de triangle, ça peut être un zigzag, A, B, C. Bon, il y a plusieurs options, mais cette vague 4 n'est pas terminée. Cette vague 4 n'est pas terminée, d'autant plus que, pour le moment, eh bien, l'or souffre de la comparaison avec le cours du Bitcoin. Et c'est vrai qu'effectivement, tant que la tendance du ratio Bitcoin-Gold va rester haussière, ce qui est le cas ici, lorsqu'on représente, et notez la perfection technique, lorsqu'on représente les bougies japonaises hebdomadaires du ratio Bitcoin-Gold, qui se maintient au-dessus de cet ancien sommet après avoir fait un breakout, effectivement, on se dit que l'or peut rester encore un certain temps en construction de cette vague 4, alors qu'il peut être juste un range, qui peut être un triangle, un zigzag, mais en tout cas, dans cet intervalle, avant plus tard dans l'année, de reprendre sa marche en avant. Vous savez, est-ce que vraiment cette phase haussière est terminée? On se pose un certain nombre de questions parce que, effectivement, les indicateurs techniques, les indicateurs de momentum de long terme, c'est-à-dire représentés sur la représentation graphique en données mensuelles, sont en zone de surachat. Effectivement, alors la question de savoir est-ce que cette vague 5 peut se développer davantage, pour ça, il faut préserver les supports. Il ne faut pas faire de pattern de renversement baissier. Et on repense aux fins de cycle haussier de 2011, 2012 et même de 2020. Et c'est là où ça va être important d'aller regarder. Effectivement, lorsque vous basculez sur le graphique en données mensuelles, eh bien, si vous représentez le momentum à l'aide de l'indicateur technique RSI, nous sommes dans des zones qui ont vu le fin de ce gros cycle haussier de 11 ans, ou si dans cette zone qui a vu cette correction intermédiaire depuis le sommet ici atteint en 2020. Donc on arrive, mais notez que tant que le RSI ne sort pas par le bas de la zone de surachat, il n'y a pas de signal de fin de hausse. Alors, au final, vous savez, par exemple, ici, la fin de ce cycle haussier de plus de 10 ans, on a eu une pattern. Regardez bien, ici, il y avait une pattern, on a fait une pattern. On a eu une belle pattern, je vais la remontrer ici aussi en données hebdomadaires. Voilà, on avait une structure ici avec une cassure de ligne de coup, et là, c'était le début d'un cycle baissier. Et effectivement, pour le moment, nous sommes simplement en range. Donc en réalité, tant que le marché ne casse pas les 2 500 $, tant qu'on se maintient dans un range au-dessus des 2 500 $, au-dessus de cette ligne de tendance, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, cela ne peut être qu'une sous-vague 4 de la grande 5. Mais effectivement, par contre, si l'or devait casser cette zone, si l'or devait casser cette grosse zone de support, eh bien là, dans ces cas-là, la sous-vague 5 de la grande 5 aurait bien été terminée ici, donc en 2024. Et en lien avec des objectifs théoriques de vague 5 sur une échelle arithmétique. Donc c'est vraiment le débat échelle arithmétique, échelle logarithmique. Sommes-nous en fait en sommet de 5 de 5 ou sommes-nous simplement sous vague 4 de la grande 5? C'est passionnant, on va voir ça toute l'année. Et alors bien sûr, c'est technique. Mais aussi, voilà, pour répondre à cette question, est-ce que la 5 de 5 peut pousser à 3 000 $? Ça va être essentiellement aussi basé sur les fondamentaux. Donc ça va être la seconde partie de cette vidéo. L'or à 3 000 $, Pour rendre ce scénario crédible, il faut rassembler un certain nombre de conditions fondamentales que nous allons passer en revue, qui concernent l'offre et la demande, qui concernent les flux, qui concernent beaucoup d'éléments. Toutes les informations se trouvent dans ce tableau ici à gauche, et maintenant je vais les reprendre une par une et les illustrer. Alors messieurs, dames, les fondamentaux nécessaires pour envisager que cette fameuse vague 5 du cours de l'or ne soit pas terminée, qu'il reste la 5 de la 5, ou au contraire, est-elle déjà terminée? Pour envisager qu'elle se développe davantage, il faut que les facteurs fondamentaux qui agissent sur la demande d'or agissent ensemble. Alors, je vous ai remis ici quelques statistiques qui viennent du World Gold Council, cette association qui rassemble les principales compagnies minières du monde. Ici, vous avez une répartition des différentes composantes de la demande d'or. Retenez qu'il y a une partie physique qui est encore très importante et l'autre partie, la demande financière ou financière d'or, essentiellement à travers les ETF, les contrats futurs et les contrats d'options. Alors, c'est vraiment important de commencer par ça. Ici, sur les données du World Gold Council, vous avez donc trimestre après trimestre les différentes composantes de la demande d'or, l'industrie de la joaillerie, la demande technologique d'or, la demande dite d'investissement. C'est ici que vous allez retrouver les contrats de type ETF, futur, option, la demande des banques centrales. Et effectivement, on peut constater encore la part très importante de la demande physique d'or, essentiellement d'ailleurs sous l'influence de l'Inde et de la Chine. La demande d'investissement, elle, répond davantage à des corrélations comme corrélation inversée avec les taux d'intérêt ou le dollar américain. Alors, les fondamentaux requis pour envisager que l'or aille plus haut cette année. Tout d'abord, effectivement, la reprise d'une tendance baissière du dollar américain face à un panier de devises. Alors, effectivement, c'est vraiment quelque chose de majeur lorsque vous interrogez les gérants institutionnels et qu'ils expriment la raison pour laquelle ils se sont éventuellement tournés vers les ETF Gold, c'est en général lorsque le dollar US est sous pression. Sauf que là, depuis donc plusieurs semaines, le dollar était en tendance haussière. D'ailleurs, le dollar américain face à un panier de devises était en tendance haussière depuis septembre dernier, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché la demande de gold, la demande financière ou financière d'or d'être très importante, notamment sur les ETF états-uniens. Donc ça, c'est déjà une résilience étonnante. Mais effectivement, pour envisager que l'or aille plus haut, il va falloir que cette tendance haussière s'interrompe. Vous avez ici donc sous les yeux l'indice dollar américain face à un panier de devises. Son ticker est DXY. Et c'est intéressant de noter effectivement que lors de la première présidence de Trump, ici, au moment de l'élection présidentielle en novembre 2016, le dollar avait d'abord été recherché pour finalement entrer dans une période de baisse, finalement d'ailleurs terminée en baisse à l'issue de la première présidence de Donald Trump. Alors, Donald Trump, l'administration Trump, le pouvoir exécutif, la Maison Blanche n'a pas d'impact direct sur le dollar américain. Il ne fixe pas le taux de change, il ne dirige pas la politique monétaire. Mais l'administration Trump, à travers l'arme de la communication publique, peut agir sur ce dollar américain de manière directe. Et la question est de savoir, est-ce que le dollar alors donnera un signal baissier lors des premières semaines de la présidence de Trump? Est-ce que le dollar va réintégrer, ce qui serait un signal technique baissier pour le dollar, serait de réintégrer ce range. Intéressant de noter que à l'époque, le dollar ici a échoué en 2022 au contact de la ligne de coût de ce qui fut ici un double top chartiste en mai 2002. C'est donc un gros niveau technique. Il existe donc la possibilité peut-être d'aller chercher ce niveau avant de rejeter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si le dollar US face à un panier de devises devait réintégrer ce niveau-là, ce serait un signal baissier fort sur le dollar. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et il faut bien sûr surveiller le cours de l'euro-dollar, puisque le calcul du DXY, c'est 57,6% d'euro-dollar. Et donc, s'il commence à y avoir des divergences haussières sur le cours de l'euro-dollar, et peut-être ici un décompte Eliotis de vague 2 terminée qui aurait retracé 61,8 de la vague 1, si l'euro-dollar repart à la hausse, ou même que l'USD Yen rejette, eh bien, effectivement, cela pourrait créer des pressions baissières sur le dollar. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait profiter, de manière générale, aux métaux précieux. Alors, l'autre aspect, bien sûr, fondamental nécessaire pour envisager que l'or aille plus haut, c'est la reprise de la baisse des taux d'intérêt du marché. Alors, les principales banques centrales, notamment la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne, ont pivoté en 2024. Elles ont commencé à baisser leurs taux d'intérêt. La Fed marque une pause depuis donc là le début d'année. Elle devrait marquer une pause parce qu'il y a moins de progrès en matière de désinflation. Et cela s'est traduit d'ailleurs par une remontée des taux d'intérêt du marché. Mais tout de même, le pivot est là. Nous pouvons envisager que ces prochains mois, et même au-delà, en 2026, se poursuivent la tendance baissière, la nouvelle tendance baissière du taux d'intérêt nominal de la Fed et du taux d'intérêt réel. Il faut bien penser à regarder les taux nominaux et les taux réels. Sur ce graphique, je vous ai mis donc ici le cours de l'or, le taux de la Fed, le taux réel de la Fed, les taux nominaux et les taux réels. Et effectivement, une période d'appréciation pour aller encore plus haut sur l'or, sur le marché des matières premières, il faudrait voir la poursuite de la baisse des taux des banques centrales et la reprise de la baisse des taux d'intérêt nominaux. Alors cela va bien sûr être directement lié à la désinflation aux États-Unis, désinflation qui s'est mise en pause. La désinflation qui s'est mise en pause, la Fed d'ailleurs qui s'est montrée très pessimiste dans la dernière mise à jour de ses projections macroéconomiques, estimant que l'inflation, selon l'inflation PCE, mais aussi en version core, selon le PCE core, ne baisserait pas sous 2,5%, mais cela peut aller très très vite. Et il y a d'ailleurs un effet de base défavorable fin 2024 qui disparaît là au premier trimestre 2025. Et donc effectivement, si l'inflation US devait reprendre progressivement la direction du sud, comme le suggère un certain nombre d'outils sur lesquels je reviendrai dans la prochaine émission Top Gun, mais je peux vous montrer notamment l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui, dès les chiffres du mois de janvier, se montre très optimiste pour la reprise de la baisse du PCE, que ce soit en version core, en version nominale. Attention, les chiffres de janvier sont publiés en février. Et ça, c'est donc quelque chose qui est, si vous voulez, si vous souhaitez vraiment que l'or aille à 3 000 $, baisse du dollar, baisse des taux du marché et une solide demande physique en Chine et en Inde. Et là, vous avez le trio gagnant. Alors, la prime de risque géopolitique. Bon, c'est un facteur de soutien éternel pour le cours de l'or. La question est de savoir, en cas d'accord de paix, de cesser le feu en Ukraine, au Proche-Orient, bon, est-ce que cela va venir enlever de l'intérêt pour l'or ? Peut-être à court terme, mais en termes de tendance de fond, l'incertitude géopolitique restera et devrait quand même être un facteur de soutien. Mais attention, effectivement, à la volatilité court terme que peut créer, par exemple, des bonnes nouvelles concernant la guerre en Ukraine, des choses comme ça. Alors, ça c'est assez lié aux corrélations. La demande d'or, la demande financière ou financière d'or, je vous l'ai montré ici tout à l'heure, la demande financière ou financière d'or, c'est quelque chose qui compte dans la demande globale d'or, c'est la demande dite d'investissement, et vous voyez qu'elle a quand même chaque trimestre une part importante de la demande globale d'or, et en particulier le rôle des ETF aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie, et des contrats futurs et des contrats d'options. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous regardez les data du quatrième trimestre, alors que le dollar US a pourtant été largement en hausse face à un panier de devises, eh bien, la demande sur les ETF Gold US, alors en termes d'assets under management, 270 milliards dans le monde entier, 138 milliards pour l'Amérique du Nord, 108 milliards pour l'Europe, 18 milliards pour l'Asie, on voit quand même le poids dominant des ETF US, et c'est intéressant de noter qu'au quatrième trimestre, il y a eu encore des inflows, malgré la hausse du dollar. Et là, plus récemment, si je prends les tout derniers chiffres, nous avons des inflows aussi qui reviennent en Europe. Donc, il y a une attractivité, là, même malgré le rebond des taux d'intérêt du marché, l'attractivité sur les ETF Gold est restée forte. De la même façon, si vous prenez le dernier rapport Commitment of Traders et que vous regardez l'évolution de la position nette institutionnelle sur le Gold chez les asset managers, eh bien, la position nette institutionnelle conserve une trajectoire haussière malgré le rebond du dollar, malgré les taux d'intérêt du marché. Donc ça, c'est quelque chose d'assez percutant en soutien de l'or. Et effectivement, l'or va avoir besoin que cette demande financière ou financière d'or se maintienne pour pouvoir aller plus haut. Alors, dans ce qui est nécessaire pour envisager un or à 3 000 $, c'est bien sûr l'arbitrage vis-à-vis des autres classes d'actifs. Je vous ai notamment parlé alors de l'arbitrage vis-à-vis du Bitcoin. Naturellement, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession. Alors, en Europe, bon, peut-être en plus que le bas de cycle est en vue,
Aux États-Unis, l'Amérique, les États-Unis ont démontré la résilience de leur économie, mais tout de même, cette année, il faut avoir vraiment un œil sur l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. Je vous rappelle que le taux de chômage, le seuil d'alerte qui a fixé la Réserve fédérale des États-Unis est un taux de chômage à 4,3% de la population active, et le taux de chômage actuellement est à 4,1%, ça peut aller très vite. Il peut suffire d'un seul rapport NFP où le taux de chômage remonte à 4,2 ou 4,3 pour s'approcher du seuil d'alerte de la Fed, créer un risque ou finalement augmenter la probabilité que la Fed reprenne ses baisses de taux plus tôt que prévu, peut-être avant le 18 juin, en lien avec des tensions sur le marché du travail. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui apporterait du soutien. Alors, comme d'habitude, bien sûr, la demande des banques centrales et la demande physique en Inde et en Chine. La demande des banques centrales, attention, la Chine a arrêté d'acheter de l'or depuis le premier trimestre 2024, mais l'Inde a pris le relais. Lorsque vous regardez les datas, alors effectivement, si on remonte à 2023, la Chine était largement acheteuse. Si vous repassez ensuite au premier trimestre 2024, la Chine était encore là. Et puis, depuis, elle a disparu. Mais elle a disparu, elle a cessé d'en acheter, elle en a acheté beaucoup depuis 3-4 ans. La demande des banques centrales, c'est quand même... Alors, on voit d'ailleurs que la part de la demande des banques centrales dans la demande totale d'or est en baisse du fait du retrait de la Chine, mais vous avez l'arrivée notamment de l'Inde, qui compense, et d'autres banques centrales. Donc, la demande des banques centrales d'or continue, bien sûr, d'être importante. Et enfin, alors, à côté de cette demande financière ou financière d'or de la demande des banques centrales, la demande physique en Inde et en Chine. En Inde, c'est encore dynamique. En Chine, on peut envisager que les mesures de relance massives engagées par les autorités chinoises, que ce soit sur le plan monétaire, budgétaire, des allocations pour les consommateurs, permettent de rebooster cette demande de métaux précieux en Chine. La joaillerie, les bijoux, l'or, le métal précieux sont très importants dans la vie sociale en Chine. Et on peut voir déjà d'ailleurs un début d'effet avec un soubresaut, une tendance à la remontée du taux de croissance annuel des ventes au détail en Chine. Donc, il y a des choses ici prometteuses à voir. Donc, vous avez ici quand même un tableau avec beaucoup de fondamentaux qui doivent agir ensemble pour espérer avoir cette fameuse vaccin de la 5. La question technique, vous l'avez vu tout à l'heure en première partie, étant de savoir si la 5 de la 5 est déjà finie en octobre dernier à 2790$, ou est-ce qu'elle va se poursuivre jusqu'à 3000$. Et enfin, nous terminons ce Fast and Forex par un point technique sur les petits frères ou les petites sœurs, comme vous voulez, le cours de l'argent métal, le cours du palladium et le cours du platine. D'un point de vue technique, où en sont-ils? Alors, bon, l'or, l'argent, bon, ça, effectivement, ils sont assez corrélés. Et moi, j'ai toujours ce décompte haussier que je vous propose sur le cours de l'argent métal depuis les $20. J'avais une cible entre 35 et 37,50$. Le marché a fait aller 34,90$. En ce qui me concerne, tant qu'il se maintient au-dessus des 28, c'est un scénario qui reste dans le pipe. Allez chercher cette zone ici. Allez chercher cette zone en 2025. Bon, c'est vraiment... Allez, les 26-28, c'est la zone à ne pas casser pour ne pas se dire qu'ici, un sommet majeur a été trouvé sur le cours de l'argent métal. Alors, pour le palladium, il est vraiment au bord du gouffre technique, mais certains se disent que, justement, il peut être au contact d'un support. Vous avez ce support pluriannuel qui remonte à 15 ans, cette grosse zone latérale sur laquelle le marché est. Dans l'esprit, on voit que ça diverge depuis un certain temps. Il y a des tentatives de dépassement de résistance. Regardez les enseignements du système Ichimoku, où on est venu buter sur la SSB. C'est-à-dire, on voit très bien la tendance haussière guidée ici par le Kumo, guidée à la baisse. Et donc, si vous voulez, pour vraiment affirmer que le palladium donne un signal de hausse pour remonter jusqu'à ce niveau, il faut dépasser le sommet du 28 octobre. Donc, en attendant, prudence sur le palladium. Sur le platine, la structure technique est beaucoup plus simple. C'est une structure ici en trading range, en triangle, après ici un bas haussier, où finalement tous les retours dans cette zone, entre 850 et 900$, tous les retours dans cette zone, c'est une opportunité d'achat. C'est 61,8% de retracement de tout ça. Et on peut envisager que viendra le moment où il y aura une extraction haussière pour remettre ici, vous voyez, un A égale C pour remettre la même amplitude. Mais donc ici, vous avez vraiment un support majeur sur le palladium. Et donc pour l'or, eh bien vous avez compris, cela se range ici peut-être lu comme une vague 4. Alors en construction, ABC ou un triangle, ou peut-être au contraire, le point de départ d'une fondation de top comme ça à suivre, et j'en ferai bien sûr comme chaque mercredi le suivi dans l'émission Fast & Forex. Merci pour vos likes, merci beaucoup, et à la semaine prochaine, salut.